Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 17e, c'est le deuxième d'ailleurs de l'année 2016. Bonjour Michel Santos.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Fabre.
Bonjour Jean-Claude.
Vous êtes maire de Bise-Minervois, de la commune de Bise, et puis à l'Aglo, vous avez un rôle particulier puisque vous êtes le président de Domicia Habitat, c'est-à-dire, pour parler simple, le logement social ou encore plus simple, le HLM.
C'est exact, c'est tout à fait ça. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on peut plutôt que parler de logement social, parler de logement pour tous, quoi, en fait.
Bon, eh bien, la troisième partie vous sera consacrée entièrement, Alain Fabre, selon la tradition de cette émission. Puis, je le rappelle aussi, selon une autre tradition, que si à un moment vous voulez donner votre point de vue dans les sujets dont nous allons débattre avec Michel, là encore, vous êtes parfaitement le bienvenu et on vous écoutera avec attention.
Je vous remercie.
Le sommaire de cette émission, nous commencerons, Michel, parce que tu as appelé dans ton blog, qui d'ailleurs a fait un tabac encore cette semaine, oui, le contre-regard, la dictature de l'émotion, c'est à propos du décès du chanteur britannique
David Bowie.
Après quoi, bien entendu, c'est encore la saison, nous parlerons de vœux.
Jusqu'à la fin de ce mois-ci.
Oui, voilà. Et là, si on peut dire en ce qui concerne le coût,
oui,
puisque c'est là-dessus que tu as centré ta chronique. Dans une deuxième partie, nous parlerons des... Jean-Marc Allery, qui est un personnage narbonnais et qui,
que nous avions
d'ailleurs
ici, oui,
reçu, mais avec une autre casquette, et sur lequel, Michel, tu as apparemment de nouvelles informations,
oui,
que tu souhaitais nous communiquer. Et nous terminerons par les Halles de Narbonne, alors sous un regard particulier, les croquants, les croquis, les croqueurs, je ne sais plus trop ce qu'il,
oui,
faut dire. En tout cas, ceux qui arrivent aux Halles, qui prétendent croquer, dessiner, et qui, mal leur en prend, se font virer,
oui,
presque manu militari, quitte après à revenir complètement sur...
Exactement, on va cette belle séquence narbonnaise.
Voilà,
oui,
ce qui a donné un épisode croquignolesque et pyrotechnique, si je puis dire, sur lequel nous allons conclure cette deuxième partie. Après quoi, troisième partie, comme c'est toujours l'habitude, c'est Alain Fabre qui nous expliquera ce qu'il fait et dans sa commune de Bise et au HLM ou au logement pour tous sur Narbonne. Alors Michel, pour commencer, la dictature de l'émotion, c'est-à-dire en fait un chanteur décède. On en parle, c'est une pointure,
oui,
mais on ne parle que de ça pendant...
Oui, alors c'est vrai que David Bowie n'est pas un chanteur comme les autres, hein. C'est quand même quelqu'un qui a marqué...
C'est un peu un phénomène, oui.
Qui a marqué son temps, même si, contrairement à un de mes lecteurs qui n'a pas manqué de critiquer mon billet sur le sujet, m'a fait observer que David Bowie était le plus grand événement artistique de ce siècle.
Oui, j'ai d'ailleurs
rajouté dans ma réponse que je concevais avec lui que c'était certainement le plus grand chanteur de ce siècle, voire même de l'humanité tout entière, mais que quand même il ne fallait pas exagérer. Et ce que je voulais dire, dans la foulée de ce que avait fait remarquer de manière d'ailleurs très courageuse et très récemment un ancien président de Radio France, hein, c'est qu'il ne fallait pas quand même que cette information sur cette mort de ce grand chanteur qui est David Bowie prenne une place disproportionnée,
oui,
en fait,
tout est là,
disproportionnée dans les journaux d'information.
C'est ça.
Exactement. Et il donnait l'exemple de la matinale de Radio France de 8 à 9 où cette mort, ce décès de David Bowie avait pris la moitié de la séquence informative de,
ouais,
ce journal. De 8 à 9.
Et en télé, alors, c'est à peu près la même chose.
Ne parlons pas de la presse écrite, c'est à peu près l'équivalent. Hein. Alors, bon, que l'on soit tout à fait d'accord, et je le suis, hein, sur le fait qu'il faille traiter cette mort comme il se doit, en fait, et pour situer un petit peu ce personnage dans l'histoire de la musique, notamment de variété de notre monde contemporain, tout à fait d'accord, mais on aurait très bien pu le faire, et on aurait dû le faire, dans une séquence à part, dans une émission dédiée spécialement à David Bowie, pour justement en parler,
oui,
et en parler de manière...
C'eût été plus appropriée.
Plus appropriée. Bon, force est de constater que... David, oui, c'est pas le premier exemple qui nous est donné. Hein.
Depuis le début de l'année,
ça n'a pas cessé d'essayer de Galabru, d'essayer de Delpech, de Michel Delpech. Puis on passe sur les événements en hypercacher, en fait, de Charlie Hebdo, en fait, etc. Bref, on vit fait quand même une période où de commémoration pratiquement tous les mois, en fait, en décès de grandes personnalités, nos journaux d'information sont quasiment presque pour la moitié de leur
temps squattés par ce type
d'événement. Et d'ailleurs, on arrive même à ne plus supporter en fait des mots pourtant chargés de sens, parce que toutes ces informations commencent par des micro-trottoirs, en fait, où on présente des personnes pleurant, en fait, la gorge nouée, exprimant leur émotion, les larmes à l'œil.
Si je puis faire une petite parenthèse, ça nous rappelle certains régimes dictatoriaux, exemple la Corée du Nord, meurt un dictateur.
Je n'irai pas jusque-là,
mais le principe est le même, on pleurniche, on jérémiade.
Mais quand même, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on voit les caméras insister particulièrement, cadrer les visages, bon, fixer les larmes qui coulent.
Enfin, oui, on est dans l'émotion.
On est dans l'émotion. Purement. On est dans la dictature de l'émotion, ajoutée à l'hyperbole, évidemment, puisque tout disparu devient immédiatement, le plus grand des personnages historiques du moment, que ce soit dans le domaine de la chanson, ou du cinéma, ou du sport.
Comme disait Georges Brassens, il est mort, il est embelli.
Alors, bon, je sais bien que disant cela, je vais pas me faire que des amis, faites que bon, on va me prier instamment de ne plus jouer les troubles faits, bon, mais j'ai décidé d'être un grincheux de service.
Tu es là à Radio Barque pour ça quand même, Michel.
Bien sûr,
faut le rappeler.
Puis bon, je n'oublie pas que le titre de mon blog est Contre-regard, fait, émission-ci.
Ça aussi, nous le rappelons à chaque fois.
Donc voilà, j'ai joué le rôle de grincheux de service, et puis il me semble que cela reflète quand même un problème de fond qu'il convenait de mettre sur la table de cette Radio Barque.
Voilà, pour rester dans le domaine grincheux, mais là je crois que c'est à juste titre aussi, nos vœux, c'est très bien nos vœux, mais alors qu'est-ce qu'ils nous coûtent cher ?
Alors Jean-Claude, j'ai fait un calcul très
à la louche,
très simple,
non ?
Très simple en fait, mais très précis aussi. Je me suis mis dans la peau d'un représentant des 40 000 associations de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Je n'ai pas fait le calcul au niveau de la grande.
Oui, simplement l'ancien territoire Languedoc-Roussillon.
40 000 associations. Hein. Des 146 maires et de leurs adjoints de cette toujours ancienne région. Des 132 présidents d'intercommunalité et de leurs élus. Des 5 présidents de conseils généraux et de leurs membres. Et ceux des innombrables syndicats mixtes, professionnels, etc. Hein. J'aurais pu recevoir l'invitation d'un ou de plusieurs présidents d'entre ces structures-là, hein, qui, selon le terme en usage, rassemblent les forces vives d'un territoire qui, quand même, est un peu alangui pour les inviter à leur cérémonie de vœux. Alors, un rituel immuable, hein, qui est d'ailleurs bien à la tradition monarchique de notre pays. On ne trouve nulle part ailleurs dans le monde ce genre de ces rituels.
— À ce niveau-là, peut-être.
— À ce niveau-là. Dans les démocraties du Nord, c'est beaucoup plus...
— C'est plus soft,
c'est
quand
plus
même. —
C'est plus soft.
Oui.
C'est beaucoup plus simple.
Oui.
Hein, y compris dans le monde anglo-saxon. Mais bon, dans notre monde, et dans notre France en particulier, vieille tradition monarchique existante dans la République, on continue ce type de rituel très fastueux.
Alors,
un rituel immuable, on entend des discours pompeux, très pompeux, répétitifs, où on avale d'innombrables petits fours et de vineux liquides, on bavarde, on palabre, on pontifie, on jabote, on harangue, hein, et... on assiste à cette espèce d'humanité qui baigne dans l'inconfort de festive et prétentieuse reprétention qu'elle se fait d'elle-même. Une vertigineuse, disais-je dans mon blog d'ailleurs, comédie humaine qui, le cucugnant à l'Élysée, en passant par Narbonne et Montpellier, mobilise les énergies et les budgets Les budgets.
Les budgets, voilà.
Durant tout ce mois de janvier.
Venons-y, parce que c'est alors, peut-être là que le bas blesse.
Qui pourra jamais évaluer, disais-je dans mon blog, le prix à l'échelle de la France entière, parce que multiplié par les 22 anciennes régions, ce genre de petites séquences que je viens de résumer,
et l'État,
on imagine le budget que cela va représenter. J'ajoute, je précise tout simplement que rien qu'à Montpellier, le président de la métropole a rassemblé plus de 2500 invités. Que ça.
Voilà.
Qu'à l'Élysée, le président de la République, François Hollande, par l'intermédiaire du ministère du Budget, a adressé ses voeux à la jeunesse pour la bagatelle de 250 000 euros.
Un quart de million d'euros.
C'est pas rien, quoi.
C'est pas rien.
À Narbonne, nous notons que ça prendra une forme très particulière, et très inédite, avec le rassemblement associant les habitants. Il paraît qu'il y aura des arbres que aux branches desquelles les Narbonnais invités place d'hôtel de ville pourront faire connaître leurs vœux.
Voilà. Mais alors
j'espère qu'ils seront pour le maire en tout cas.
Voilà, justement. Mais j'aimerais avoir le point de vue alors du maire d'une petite commune qui forcément présente ses vœux. Alors à une autre échelle, qu'est-ce que ça représente pour vous, Alain Fabre?
Oui, pour moi c'est tout d'abord un événement qui marque le début de l'année. Et c'est un moment de rencontre avec mes administrés. Voilà. Donc c'est l'occasion...
Donc c'est une occasion à ne pas manquer.
À ne pas manquer. C'est un moment de convivialité. Nous souhaitons la bonne année. Je pense que de tels événements sont quand même nécessaires dans le fonctionnement de la vie d'une communauté, d'une cité. Et ce moment de convivialité permet, dès le début de l'année, de rapprocher les gens, de se rencontrer... Et également, donc, de se rencontrer, d'échanger sur tel ou tel sujet. Moi, j'en profite également pour faire le compte-rendu de l'activité municipale sur l'année.
Il y a des comptes à rendre.
Qu'a fait le personnel, de mettre en avant le travail associatif. C'est à travers un PowerPoint qui est diffusé en même temps que pendant cette cérémonie, dont tous les gens se retrouvent, voient que leur action est reconnue, tous ces bénévoles qui œuvrent tout le temps pour donner du contenu au sens et du sens dans la vie collective et commune de notre village.
Ça, c'est le côté positif.
C'est le côté positif.
Rassurez-nous,
voilà.
ça ne coûte pas la peau des fesses.
Non, pas du tout. Je crois qu'on est dans une autre échelle. Et je crois qu'il faut éviter, Michel, peut-être il faut voir ça aux différents niveaux. Au niveau communal, je pense que ça a un intérêt. C'est de la proximité. C'est créer un peu plus de proximité. Et nous en avons bien besoin par les temps qui passent. Et ensuite, donc, au niveau institutionnel plus important, il faut dissocier et ne pas mettre tout le monde dans le même panier.
C'est autre chose et nous marquons une première pause.